Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. On va aller faire une petite première lecture au chapitre 28 du livre de la Genèse. On va parler de Jacob ce matin, de sa rencontre avec Dieu, ou plutôt de Dieu qui rencontre Jacob. Et qui va faire de Jacob un vainqueur. Et c'est nécessaire dans nos situations que nous traversons que le Seigneur soit avec nous et que nous remportions les victoires et que nous soyons des vainqueurs. Mais être un vainqueur pour Dieu n'est pas du tout semblable à ce que nous pouvons avoir comme référence dans ce monde. Dans ce monde, pour être vainqueur, il faut être fort, il faut avoir de l'entraînement, etc. Nous avons depuis quelques années le champion du monde, champion olympique de judo, il est français, mais quand vous voyez l'ancien champion comme le nouveau, vous comprenez pourquoi ils sont vainqueurs. Ils ont fait tout ce qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut génétiquement déjà, puis après avec l'entraînement, pour être vainqueur. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Le vainqueur, c'est celui qui est vaincu. Et on va le voir. Genèse 28, 10. Jacob partit de Beersheba. Alors pour situer le récit, il vient de tromper son père, il vient de tromper son frère. La situation est tellement grave qu'il doit fuir. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel, maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde, pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera à la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et le temps passe. On arrive au chapitre 32, voilà le temps du retour. Quand on quitte une situation déplorable, en fait, on ne fait que repousser une échéance. Il va falloir la retrouver et la régler. Parce que tout doit être réglé avant qu'on rentre dans la maison du Père là-haut, parce qu'on ne pourra pas rentrer avec des gamelles. Les gamelles, il va falloir qu'elles restent en bas, il va falloir régler nos vieilles gamelles que l'on tire depuis longtemps, à tort ou à raison. Et voilà la rencontre inévitable entre deux frères qu'on aurait pu qualifier, on aurait pu faire un film avec ça, même des feuilletons, puisque c'est une histoire à rebondissement. Deux frères ennemis, à forte raison. Jacob poursuivit son chemin, Genèse 32, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. » Vous voyez le langage qui change. « J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Le temps a passé, rien n'est réglé. Les situations, au contraire, se dégradent. Les problèmes, c'est comme s'ils s'amplifiaient. La rancune, elle a eu le temps de faire ses racines. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc il est conscient que la rencontre avec son frère, ça va être difficile. Et c'est là que Dieu le rencontre. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme luttait avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Ailleurs, il est dit, « Il est merveilleux. » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Voilà. Donnez-moi un instant pour me positionner. Voilà. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Ou on pourrait appeler cela autrement, le combat de notre vie qu'il ne faut surtout pas perdre. Voilà. On peut se permettre de perdre des choses, on ne peut pas perdre un frère. On ne peut pas perdre une relation fraternelle. Et pourtant, c'était mal parti, mal engagé. Jacob est issu d'une lignée de croyants. Alors je vais me permettre de vous montrer un petit tableau que j'ai fait il y a longtemps. On va le projeter. Sans prétention. Hein. Et si vous pouvez l'agrandir au maximum. Voilà. Alors je vous explique comment ça fonctionne. C'est très très simple. On part de zéro. Création d'Adam. Et à 130 ans, il engendre 7. Et à 105 ans, 7 engendre Enoch. Donc, on est en 235 après la création d'Adam et Ève. Et on continue ainsi de suite. On peut monter ? Encore, encore. Et dans l'autre sens, ça marche à l'envers. Stop. On arrive à 1948 après Adam, où à 29 ans, Térakh engendre Abraham. Et à 70 ans, pardon, il engendre Abraham. Donc on est en 2048. Et Abraham, à 100 ans, engendre Isaac. Donc on est en 2108. Et à 60 ans, Isaac engendre Jacob. Ce qui est important, c'est ce qui est ici. C'est que Abraham a vécu 175 ans. D'accord ? À quel âge a-t-il eu Isaac ? À 100 ans. À quel âge Isaac a eu Jacob ? À 60 ans. Donc, comme papy Abraham a vécu 175 ans, quel âge avait Jacob quand Abraham est mort ? 15 ans ? Merci. On peut le supprimer. C'est qu'un détail. C'est qu'un détail qui fait quand même apparaître que Jacob avait 15 ans quand papy Abraham est décédé. Alors, on lui a parlé d'Abraham, c'est sûr, parce qu'en Orient, on parle. Ça parle. Même dans le Sud, ici, ça parle. Donc, on a dû lui dire, tu es Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. C'est pas rien, hein. Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Alors on a dû lui dire dans les couloirs des tentes, tu sais, Abraham, il a vécu avec Dieu des choses extraordinaires. Il a fait aussi quelques petites erreurs. Et on a dû communiquer tout ça à cet enfant qui a su que le patriarche Abraham, le papy Abraham, a vécu des choses extraordinaires. Mais il a su aussi, malheureusement, parce qu'il y a toujours quelqu'un de bien intentionné pour rapporter vos fautes. Tu sais, avec Agar, il a commis des erreurs. Hein, avec Abimelech, et il a recommencé à mentir en disant de mamie, c'est ma sœur. Voilà. Et ceci explique un petit peu cela. C'est que peut-être que Jacob, malgré le fait d'être issu d'une lignée de croyants, eh bien, a retenu plutôt les erreurs que les points forts. Et ça, c'est terrible dans la vie de chrétiens, d'une famille de chrétiens, parce que nous faisons tout pour que nos enfants gardent le meilleur de notre vie spirituelle. Seulement, ils ne voient pas que ça. Ils n'entendent pas que ça, puisqu'ils voient tout et ils entendent tout. Et du coup, même si nous avons 80% de choses positives, les 20% sont terribles de conséquences. Mais bon, ça, ce n'est qu'un commentaire personnel. Mais il avait 15 ans quand papy Abraham est décédé. Il sait tout de la vie de son père. Il sait tout de la vie de son grand-père. Il sait que Dieu a béni. Et pour l'instant, il a, jusqu'à un certain moment, plutôt, il a un langage religieux. Ah oui, une vision, un songe, c'est extraordinaire. Une échelle qui monte vers le ciel. Et il est conscient que ce que Dieu est là. Mais son discours avec Dieu, je n'ose pas encore appeler ça une prière, c'est bon, ben, si Dieu est avec moi, si Dieu me bénit, si, alors je lui donnerai. Et puis il est très religieux, je lui donnerai même la dîme. Comme ça, c'est un chrétien cachère. C'est un croyant cachère. Il a tout compris. En fait, il a compris qu'une partie des choses. De la relation avec Dieu. Je ne donne pas ma dîme parce que Dieu me bénit. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne donne pas. Je rapporte une partie de tout ce que Dieu m'a donné. C'est complètement l'inverse. Et entre parenthèses, tant qu'on n'a pas saisi ça, l'offrande n'est pas une offrande. C'est un arrache-cœur. Voilà. Et j'en veux pour preuve quelques frères et sœurs, parfois, qui ont dit, oh non, mais moi, vraiment, apporter au Seigneur ce que je dois lui apporter, ça, c'est difficile pour moi. Ça. J'ai dit, oui, alors, si tu t'arraches le cœur, déjà, déplace le portefeuille, parce que s'il est trop près du cœur, ça fait mal. Mets-le ailleurs et ne fais rien. Ah bon ? Non, ne fais rien. Quand tu sauras que tout ce que tu as, y compris ton souffle de vie, vient de Dieu, et que sur ces 100% que Dieu t'a donné, il te dit, ramène de mon côté 10%, et tu verras qu'en plus, il ne te manquera même pas. Alors, c'est ça l'offrande. Je referme la parenthèse, ce n'était pas le sujet. Et donc, lui, il a son discours religieux. Si, alors je donnerai même la dîme. Donc, il est impeccable, le croyant Jacob, mais il est complètement à côté. La preuve, c'est que pendant 20 ans, sa vie, ça va être une vie de troc. Il fait tout pour avoir Rachel, c'est Léa. Après, il aura Rachel, puis il aura les servantes de l'une et puis les servantes de l'autre. Alors Dieu va le bénir, mais ça va être compliqué. Sa vie va être compliquée. Et parfois, il y a des vies de croyants compliquées. Elles ne sont pas compliquées parce que Dieu veut la rendre compliquée, c'est que nous compliquons tout. Et Dieu est au ciel et parfois, nous mettons le Seigneur dans une position d'attente. Il est obligé d'attendre qu'on comprenne et qu'on se retrouve seul avec lui. 20 ans plus tard, la situation avec Ésaü est devenue tellement difficile que de son propre frère, il est effrayé et il est angoissé. Mais c'est le monde à l'envers. Il devrait y avoir un soutien dans la famille. Les ennemis devraient être ailleurs, mais pas là. Ni dans ma famille physique et encore moins dans ma famille spirituelle. Et quel paradoxe de temps en temps de réaliser que c'est au sein même de la famille physique et au sein même de la famille spirituelle, qu'à l'égard de quelqu'un, on est effrayé, voire on a de l'angoisse à le rencontrer. Pourquoi ? Parce que Jacob a commis des fautes. Ésaü n'est pas blanc comme neige, hein, parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, etc. Il n'est pas mieux que Jacob. Mais pour le moment, c'est Jacob qui est en grande difficulté. Alors, maintenant, il demeure seul. Ça faisait plus de 20 ans que Dieu attendait la rencontre. Dieu est patient. Nous sommes des croyants qui ont peut-être encore besoin de la rencontre, comme diraient les Anglais, the rencontre. La rencontre de notre vie avec Dieu. Non pas la première fois, ça peut avoir lieu la première fois, mais peut-être que ce n'est pas la première fois qu'il y a la rencontre. Celle qui va faire que je vais m'appeler Israël, que je vais devenir serviteur et servante de l'Éternel. Mais pour ce faire, il faut demeurer seul. Et Dieu attend la rencontre. Et peut-être que le Seigneur, ce matin, parle à quelqu'un en lui disant, il y a longtemps, peut-être même plus de 20 ans, à l'instar de Jacob, que j'attends la rencontre. Il y a 20 ans que tu es effrayé, que tu t'angoisses par rapport à ce qui doit être réglé. Alors, regarde, parce que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Si tu me permets de te rencontrer comme j'ai pu rencontrer enfin Jacob, tu réaliseras que quand Ésaü va arriver, tout est déjà plié. Tout est déjà réglé. Et les 400 hommes ne viennent pas pour décimer une partie de ton camp, voire la totalité. Ils viennent pour te protéger. Ils viennent pour prendre soin de toi. Autrement dit, Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est écrit. Alors pourquoi ne le vivrions-nous pas? Dieu lui a déjà dit qu'il le bénirait. Et Dieu ne ment pas. Si jusqu'à présent dans la vie de Jacob, il n'y a pas cette empreinte de la bénédiction de Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas eu de place pour mettre son empreinte, tout simplement. Jacob prenait toute la place. Dans ses pensées, c'est Jacob qui réfléchissait. Dans son cœur, c'est Jacob qui avait ses sentiments et ses décisions. Et dans sa bouche, c'est Jacob qui parlait. Et Dieu attend que Jacob donne de la place à l'Éternel pour qu'il y ait l'empreinte de Dieu. Et quand dans nos pensées viennent les pensées de Dieu, je vous assure, ça fait une belle différence. Quand dans nos cœurs viennent les sentiments qui sont de Dieu, ça change tout. Et quand dans notre bouche, il y a des paroles de Dieu, alors les gens sont bénis, les gens sont guéris. On n'est rien du tout que des porte-paroles, que des prophètes, finalement, de la part de l'Éternel. Mais il faut lui donner un espace. Aujourd'hui, on fait des espaces pour tout. Il y a l'espace d'entreprise, l'espace jeune, l'espace ceci, l'espace cela. Espace pour Dieu. C'est un lieu aujourd'hui qui est un espace pour Dieu. Mais dans ma vie, il faut qu'il y ait un espace pour Dieu. Et c'est à moi de faire cet espace-là, de faire de la place. Et il faut que ce soit seul à seul. Entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, seul à seul. Et ton Père te le rendra. Devant l'éternité, je suis seul à demander quelque chose au Seigneur. Il est seul à avoir accompli le salut de mon âme. C'est seul à seul avec Dieu. Il y a des rencontres, c'est seul à seul. Et un homme lutte avec lui. C'est surprenant, mais la rencontre avec Dieu sera toujours un combat parce qu'il faut que je sois vaincu. L'ennemi n'est pas son frère. L'ennemi n'est pas votre frère. Même s'il en a toute l'apparence et si la situation l'attesterait. L'ennemi n'est pas Ésaü, l'ennemi de Jacob, c'est Jacob. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il s'occupera de toutes nos affaires. Donc celui qui doit être vaincu par Dieu, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Et ça, on est dans un combat spirituel. On le sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc on ne va pas demander au Seigneur d'aller régler, lui, les affaires de la chair et du sang. Puisqu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, laissons Dieu s'occuper de nous, et quand Dieu se sera occupé de nous, nous découvrirons que tout le reste, il l'a fait avec. Parce qu'avec Dieu, c'est un package. La bénédiction avec Dieu, quand vous ouvrez le paquet, il y a tout dedans. Vous êtes bénis, Dieu a pu vous bénir, et les autres aussi. Voilà. Et ce qui est surprenant et ce qui nous met à mal, c'est que parfois, Dieu se cache. C'est-à-dire que cet homme qui se bat avec Jacob, on ne voit pas son visage. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et on ne voit pas. On devine qui c'est, mais on ne voit pas son visage. Parfois, Dieu se cache dans des combats, derrière des personnes qui nous combattent, donc, et ça va faire remonter en nous tout ce qui ne va pas. Comment un chrétien pourrait réagir comme ça? Ah oui, un chrétien, je vous assure, ça peut réagir. Ça peut réagir même de manière surprenante. Quand est-ce qu'un chrétien est surprenant dans ses réactions? Quand il est secoué comme la bouteille de coca. Voilà. Et il y a des situations qui... Vous avez l'impression que ce frère, cette sœur, alors là, il est saint, il est parfait, tout va bien. Secouez-le. Que la vie le secoue. que les situations le secouent. C'est pas voulu. Mais tant qu'on est sur la terre, ça va secouer. Hein. Même la terre tremble. Pourquoi nous ne tremblerions-nous pas? Ce sera dans le ciel que ça va s'arrêter tout cela. Alors, c'est un petit peu comme l'histoire de la bouteille dans laquelle vous avez mis de l'eau ramassée dans le ruisseau ou autre, un peu boueuse. Vous la laissez tranquille, tout se dépose. Et vous avez l'impression que l'eau est claire, mais il y a un dépôt au fond. Vous secouez la bouteille et vous dites « Oh, ce qui ne va pas est remonté à la surface ». Eh bien, pour nous, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas réglé nos situations avec Dieu d'abord, elles se sont toutes déposées au fond. Et ça nous fait notre dépôt. Et ce n'est pas la mer du vinaigre. C'est un mauvais dépôt. Et quand les situations nous secouent, ce dépôt remonte et vient tout polluer. Et le Seigneur veut tout enlever. Ça veut dire qu'avant de régler la situation de Jacob, Dieu dit, Jacob, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Le Seigneur sera devant le paralytique, pour lequel tout le monde pense qu'il va le guérir, mais d'abord il lui parle de son péché. D'abord il lui parle de son péché. Eh bien, dans toutes nos situations, avant de faire quoi que ce soit, d'abord, le Seigneur dit, c'est dans ton cœur qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Tu as raison de craindre Ésaü. Tu as raison parce que par rapport à ce que tu as fait, ça a enclenché ceci et cela comme conséquence. Mais tout ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro 1, c'est toi. Je veux m'occuper de toi. Et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, c'est quand même extraordinaire que cet homme qui lutte avec Jacob et dont on sait finalement que c'est l'ange de l'Éternel, n'arrive pas à maîtriser Jacob. Se pourrait-il que Dieu, parfois, n'arrive même pas à nous maîtriser? Il le pourrait, parce qu'il fait ça et je redeviens de la poussière. Mais comme il ne le fait pas, alors je m'anime, je m'excite, je m'énerve, et parfois, je ne suis même pas docile entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec les ennemis, il a du problème avec ses enfants, comme le père avec le fils prodigue. Mais c'est quand même incroyable que tu viennes me demander, je ne suis pas encore mort, la part de bien qui doit te revenir, mais prends-la. Mais quelle plaie, quelle douleur. Et le fils aîné qui reste, le jour où il commence à ouvrir la bouche, le père se dit, mais lui il est resté, finalement c'est guère mieux. Voilà. Dieu n'a pas de problème forcément avec ses ennemis, puisque ses ennemis, il leur a réglé leur compte. C'est avec nous, c'est avec nous. La première place ne se prend pas, elle se donne. Or, Dieu doit avoir dans notre vie quelle place? La première, mais elle ne se prend pas, elle se donne. Quelle place avez-vous donnée? Alors, ne répondez pas à haute voix si vous répondez à ce qu'il ne faut pas répondre. Quelle place avez-vous donnée à votre épouse dans votre cœur? Si vous n'y avez pas donné la première, chute. Voilà. Mais cette place-là, elle ne se prend pas. Elle se donne. Quelle place avez-vous donnée dans vos cœurs à vos enfants? Cette place, elle ne se prend pas, elle se donne. Dans notre pays, on a compris que le don d'organes, il doit être gratuit. Ça ne s'achète pas, ça ne se prend pas, ça se donne. Ce qui a extrêmement de valeur ne peut pas se prendre, ne peut pas s'acheter, ça se donne. Alors, l'homme se bat avec Jacob, mais il ne le maîtrise pas parce que Jacob ne lui donne pas encore la première place. Et l'homme va le frapper à l'emboîture de l'ange. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Mais dans la pratique, nous, on résiste à Dieu. On fait l'inverse. On sait qu'il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Mais nous, dans la pratique, on résiste à Dieu et on se soumet à tout un tas de choses qui ne devraient pas avoir de place dans notre vie. Alors cet homme le frappe à l'emboîture de l'ange. Et à partir de là, Jacob deviendra boiteux et il va le rester. Et voilà la première marque de celui qui est vainqueur avec Dieu. Il est boiteux. Et ce n'est pas fini. Vous allez voir qu'à la fin, le vainqueur pour Dieu, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui va rester, vu le schéma. Enfin, j'espère que vous ne partirez pas quand même. Mais un vainqueur pour Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ressemble à nos champions de judo. Il est boiteux et il le reste. Et tant qu'il reste boiteux, c'est bien. Pour lui, Dieu peut agir. Si Dieu ne remporte pas la victoire sur nous-mêmes, nous sommes des vainqueurs perdants. Mais si Dieu remporte cette victoire déterminante, nous sommes des vaincus gagnants. Vaincus. C'est un paradoxe, hein ? Humainement parlant, c'est un paradoxe. Mais spirituellement parlant, c'est comme ça que ça doit être. Tant que je suis fort humainement parlant, je suis perdant spirituellement parlant. Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais c'est une vraie lutte. C'est une vraie lutte. Entre cet homme et Jacob, c'est une vraie lutte. Il ne faut pas faire semblant. De temps en temps, avec le Seigneur, on a discuté. On s'est battu. C'est une vraie lutte. Mais il faut accepter d'être vaincu, d'être battu. Et Jacob doit accepter de prendre le coup qui le marquera pour le restant de sa vie. Il doit l'accepter. Il doit accepter d'être vaincu. Et maintenant, c'est lui qui va dire « Bénis-moi ». Maintenant qu'il est vaincu, il va aller chercher la bénédiction qui va faire toute la différence. Mais c'est à lui d'aller la chercher. Et il va rentrer dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est plus, et ce ne sera plus, si, alors, et la dîme. Là, on n'est même plus à ce niveau-là. Là, maintenant, on est dans l'absolu. Tu passes devant. Je suis ton serviteur. Tu as la première place, d'ailleurs. C'est même pas la première, tu as toute la place. Tout appartient. Et le reste de sa vie va prendre une autre orientation. Dieu va passer devant et ça va tout changer. Jusqu'à présent, Jacob passait devant. Dans le meilleur des cas, le Seigneur, il le mettait juste à côté. Mais en général, il était derrière. Ben, Seigneur, tu n'as pas la première place, tu as la seconde. C'est quand même pas mal. Oui, mais tu es toujours derrière à la seconde place. À la première place, tu es devant. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et Jacob va boiter de la hanche et il va marcher lentement au pas du troupeau. Donc, un vainqueur avec Dieu, un chrétien avec Dieu, ça se remarque au fait qu'il boite. Y a-t-il des boiteux parmi nous ? Voilà. Vous êtes tous appelés à devenir boiteux et boiteuses, dans le sens spirituel du terme. C'est-à-dire que ça va vous forcer à marcher lentement. Ça va vous obliger à laisser passer Dieu devant. J'y arrive pas. Alors déjà qu'en pleine forme, Ésaü m'effrayait, m'angoissait, alors boiteux, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Eh bien voilà. Eh bien voilà, on y est arrivé. Il y a plus de 20 ans que j'entendais cela. Tu me l'as dit ? Répète-le s'il te plaît, ça me fait plaisir à entendre. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je te laisse et je te donne la première place dans ma vie. Oh, ça fait plaisir à entendre. Dieu n'attend que ça dans notre vie. Mais ce n'est pas fini. Il est boiteux, mais maintenant, il doit être aveugle. Parce que nous marchons par la foi et pas par la vue. Donc un vainqueur avec Dieu, il est boiteux. Et il est aveugle. Et ce n'est pas fini. Ne fais donc attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Il est sourd. Un vainqueur avec Dieu, il est boiteux. Il est aveugle, il est sourd. Et certaines personnes, il faut les gagner sans parole. Alors il est muet. Et je m'arrête là. Le vainqueur avec Dieu, je le dis sous forme de plaisanterie, néanmoins c'est fondamental. Le vainqueur avec Dieu, il est boiteux, il est aveugle, il est sourd et il est muet. Humainement parlant, vous ne gagnez rien avec ça. Spirituellement parlant, vous gagnez tout. Alors, où est notre combat ? Il y a des combats qu'il ne faut pas perdre. Mais finalement, tous les combats de ma vie, Seigneur, dans la mesure où j'étais pas à même de les gagner en bonne forme, alors maintenant, c'est même pas la peine d'y penser. Boiteux, aveugle, sourd et muet, c'est même pas la peine d'y penser. Alors tous les combats de ma vie, Seigneur, je les remets entre tes mains. Je te donne la première place dans ma vie. Je passe derrière toi. Je te suis. Que ta volonté soit faite. Amen. Point final. Et voilà le croyant qui est vainqueur. Et plus que vainqueur, c'est extraordinaire. Parce que quand je suis vainqueur, c'est quand avec Dieu je remporte des victoires. Mais quand je suis plus que vainqueur, c'est quand d'abord moi je suis vaincu par Dieu. Quand je suis vaincu par Dieu, je suis plus que vainqueur. Alors je crois que je vous l'avais dit une fois, j'avais vu un film il y a longtemps, Peut-être que ça va faire sourire certaines personnes. Écoutez, chacun ses références. C'était Rocky, le boxeur, avec Adrienne. Vous avez vu Rocky, vous avez vu Adrienne. Lui, il est vainqueur, elle est plus que vainqueur. Sauf que quand lui, il a gagné le championnat du monde, vous avez vu dans quel état il finit, et pourtant, il est vainqueur. Et il a un chèque extraordinaire, le vainqueur, qu'il vient donner à son épouse toute petite, en lui disant « Adrienne !» Et elle est plus que vainqueur. Elle a le chèque, elle a l'argent, elle n'a pas pris un coup. C'est ça, être plus que vainqueur. Je le dis en plaisantant, néanmoins, c'est vrai. Je suis vainqueur quand je me bats avec Dieu et que j'y arrive. Et je suis plus que vainqueur quand moi-même, je suis d'abord vaincu par le Seigneur. C'est lui qui a tout accompli. Et moi, je ne prends pas un seul coup d'en bas. Je prends un coup d'en haut. Je reste boiteux tout le restant de ma vie. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Jacob va le dire, dans ce combat, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Vous lisez la suite et vous allez voir que quand il va rencontrer Ésaü, il va falloir quand même qu'il ouvre les yeux parce qu'il n'en croit pas ses yeux. Il va falloir qu'il ouvre les oreilles parce qu'il n'en croit pas ses oreilles. Ce n'est pas possible. Hier, j'étais effrayé dans l'angoisse. Dans cette nuit de cette rencontre avec toi, il s'est passé des choses à tel point que Ésaü avait 400 hommes. Il vient pour dire, on va vous faire la haie d'honneur. On va vous protéger. Non, 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 mon Seigneur. Je vais marcher lentement au pas du troupeau qui me précédera. On ne peut plus l'appeler Jacob, c'est plus Jacob. Il ressemble à Jacob, mais c'est plus Jacob. Maintenant, il s'appelle Israël. Que le Seigneur soit béni et que les uns et les autres, nous soyons des vainqueurs pour Dieu. Alors, je vous le redis en terminant, un vainqueur pour Dieu, il est boiteux, sourd et muet. Voilà, on va pouvoir sortir clopin-clopin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tout ce que nous avons vu dans ta parole, c'est pour nous servir d'exemple. Et tout ce que tu as fait dans la vie de Jacob, tu veux le faire dans nos vies. D'abord avec nous-mêmes et toutes les situations qui sont les nôtres et qui sont parfois indénouables, tu vas t'en occuper. Pour tout cela, nous te disons merci, Seigneur. Je te prie de bénir mon frère, ma sœur, qui est dans une situation aussi compliquée que pouvait être celle de Jacob. Quelle grâce de voir comment tu en as donné une autre issue. Alors tu bénis celui et celle qui se confie en toi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.